Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revenons donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Georges Perec, Les choses. Et dans la pauvreté générale de la Tunisie, leur propre misère, leur petite gêne d'individus civilisés habitués aux douches, aux voitures, aux boissons glacées, n'avait plus grand sens. Sylvie donnait ses cours, interrogeait ses élèves, corrigeait ses copies. Jérôme allait à la bibliothèque municipale, lisait des livres au hasard, Borges, Troya, Sephara. Il mangeait dans un petit restaurant à la même table presque chaque jour, le même repas presque chaque jour. Salade de thon, escalope panée ou brochette ou sole dorée, fruits. Ils allaient à la Régence boire un express accompagné d'un verre d'eau fraîche. Ils lisaient des tas de journaux, ils voyaient des films, ils traînaient dans les rues. Leur vie était comme une trop longue habitude, comme un ennui presque serein, une vie sans rien. À partir du mois d'avril, ils firent quelques petits voyages. Parfois, quand ils avaient 3 ou 4 journées libres et n'étaient pas trop à court d'argent, ils louaient une voiture et partaient vers le sud. Ou bien le samedi, à 6h du soir, un taxi collectif les emmenait à Sousse ou à Tunis jusqu'au lundi matin. Il tentait d'échapper à Sfax, à ses rues mornes, à son vide, et de trouver dans les panoramas, dans les horizons, dans les ruines, quelque chose qui les aurait éblouis, bouleversés, des splendeurs chaleureuses qui les auraient vengés. Les restes d'un palais, d'un temple, d'un théâtre, une oasis verdoyante découverte du haut d'un piton, une longue plage de sable fin s'étendant en demi-cercle d'un bout à l'autre de l'horizon, les récompensait parfois de leur quête. Mais le plus souvent, ils ne quittaient Sfax que pour retrouver quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres plus loin les mêmes rues mornes, les mêmes souks grouillants et incompréhensibles, les mêmes lagunes, les mêmes palmiers laids, la même aridité. Ils virent Gabès, Tozer, Nefta, Gafsa et Metlaoui, les ruines de Sbeitla, de Kasserine, de Teleft. Ils traversèrent des villes mortes, dont les noms jadis leur avaient semblé enchanteurs, Maharès, Moularès, Matmata, Médénine. Ils poussèrent jusqu'à la frontière libyenne. C'était sur des kilomètres une terre pierreuse et grise, inhabitable. Rien ne poussait sinon de maigres touffes d'herbes presque jaunes aux tiges acérées. Il leur semblait rouler pendant des heures au milieu d'un nuage de poussière, le long d'une route que seules d'anciennes ornières ou des traces à demi effacées de pneus leur permettaient de distinguer sans autre horizon que de molles collines grisâtres, sans rien rencontrer sinon parfois une carcasse d'âne, un vieux bidon rouillé, un entassement de pierres à demi éboulé qui avait peut-être été une maison. Ou bien, le long d'une route jalonnée mais défoncée et par instants presque dangereuse, ils traversaient des chottes immenses et c'était de chaque côté à perte de vue une croûte blanchâtre qui brillait sous le soleil, suscitant à l'horizon des scintillations fugitives qui par instants ressemblaient presque à des mirages, à des vagues déferlant, à des murailles crénelées. Ils arrêtaient leur voiture et faisaient quelques pas. Sous la croûte de sel, des plaques de glaise sèche fondillées brun clair s'affaissaient parfois, laissant place à des zones plus sombres de boue compacte, élastique, où le pied s'enfonçait presque. Des chameaux pelés s'empêtrant dans leurs entraves, arrachant à grands coups de tête les feuilles d'un arbre curieusement tordu, tendant vers la route leurs lippes stupides, des chiens galeux, à demi-sauvages, courant en rond, des murailles effondrées de pierres sèches, des chèvres aux longs poils noirs, des tentes basses, faites de couvertures rapiécées, annonçaient les villages et les villes. Une longue suite de maisons carrées sans étage, des façades d'un blanc sale, la tour carrée d'un minaret, le dôme d'un marabout. Il dépassait un paysan qui trottinait à côté de son âne, s'arrêtait devant l'unique hôtel. Accroupis au pied d'un mur, trois hommes mangeaient du pain qu'ils mouillaient d'un peu d'huile. Des enfants couraient. Une femme entièrement drapée dans un voile noir ou violet qui lui recouvrait même les yeux se glissait parfois d'une maison à l'autre. La terrasse des deux cafés débordait largement sur la rue. Un haut-parleur diffusait de la musique arabe, modulation stridente, cent fois ressassée, reprise en chœur, litanie d'une flûte au son aigre, bruit de crécelle des tambourins et des sitars. Des hommes assis à l'ombre buvaient des petits verres de thé, jouaient aux dominos. Ils longeaient d'énormes citernes et par un chemin malaisé gagnaient les ruines. Quatre colonnes hautes de 7 mètres qui ne supportaient plus rien, des maisons effondrées dont le plan restait intact avec l'empreinte carrelée de chaque pièce enfoncée dans le sol, des gradins discontinus, des caves, des rues dallées, des restes d'égouts. Les deux prétendus guides leur proposaient des petits poissons d'argent, des pièces patinées, des petites statuettes de terre cuite. Puis, avant de repartir, ils entraient dans les marchés, dans les souks. Ils se perdaient dans le dédale des galeries, des impasses, des passages. Un barbier rasait en plein air à côté d'un énorme amoncellement de gargoulettes. Un âne était chargé de 2 couffins coniques de cordes tressées, remplies de piments en poudre. Dans le souk des orfèvres, dans le souk des étoffes, des marchands, assis en tailleur, pieds nus sur des piles de couvertures, déroulaient devant eux des tapis de haute laine et des tapis à poils ras. Leur offraient des burnous de laine rouge, des haïques de laine et de soie, des selles de cuir brodées d'argent, des plats de cuivre repoussés, des bois ouvrés, des armes, des instruments de musique, des petits bijoux, des châles brodés d'or, des velins décorés de grandes arabesques. Ils n'achetaient rien. Sans doute en partie parce qu'ils ne savaient pas acheter et s'inquiétaient d'avoir à marchander, mais surtout parce qu'ils ne se sentaient pas attirés. Aucun de ces objets, pour somptueux qu'ils fussent, ne leur donnait une impression de richesse. Ils passaient amusés ou indifférents, mais tout ce qu'ils voyaient demeurait étranger, appartenait à un autre monde, ne les concernait pas. Et ils ne rapportaient de ces voyages que des images de vide, de sécheresse, des brousses désolées, des steppes, des lagunes, un monde minéral où rien ne pouvait pousser. Le monde de leur propre solitude, de leur propre aridité. C'est pourtant en Tunisie qu'ils virent un jour la maison de leurs rêves, la plus belle des demeures. C'était à Hammamet, chez un couple d'Anglais vieillissants qui partageaient leur temps entre la Tunisie et Florence, et pour qui l'hospitalité semblait être devenue le seul moyen de ne pas mourir d'ennui en tête-à-tête. Il y avait, en même temps que Jérôme et Sylvie, une bonne douzaine d'invités. L'ambiance était futile et souvent même exaspérante. Des petits jeux de société, des parties de bridge, de canasta, alternaient avec des conversations un peu snobs ou des potins pas trop vieux en provenance directe des capitales occidentales, donnaient lieu à des commentaires avertis et souvent décisifs. « J'aime beaucoup l'homme et ce qu'il fait est très bien. » mais la maison était un paradis sur terre. Au centre d'un grand parc qui descendait en pente douce vers une plage de sable fin, une construction ancienne, de style local, assez petite, sans étage, s'était développée d'année en année, était devenue le soleil d'une constellation de pavillons de toute grandeur et de tout style, gloriettes, marabouts, bungalows, entourés de vérandas disséminées à travers le parc et reliés entre eux par des galeries à claire-voie. Il y avait une salle octogonale, sans autre ouverture qu'une petite porte et deux étroites meurtrières aux murs épais entièrement couverts de livres, sombres et fraîches comme un tombeau. Il y avait des pièces minuscules blanchies à la chaux, comme des cellules de moines, avec pour seul meuble deux fauteuils sahariens, une petite table basse. D'autres longues, basses et étroites, tapissées de nattes épaisses, d'autres encore, meublées à l'anglaise avec des banquettes d'embrasure et des cheminées monumentales flanquées de deux divans se faisant face. Dans les jardins, entre les citronniers, les orangers, les amandiers serpentaient des allées de marbre blanc que bordaient des fragments de colonnes des antiques. Il y avait des ruisseaux et des cascades, des grottes de rocailles, des bassins couverts de grands nénuphars blancs, entre lesquels filait parfois l'estrie argentée des poissons. Des paons se promenaient en liberté, comme dans leurs rêves. Des arcades envahies de roses menaient à des nids de verdure. Mais sans doute, il était trop tard. Les trois jours qu'ils passèrent à Hammamet ne secouèrent pas leur torpeur. Il leur sembla que ce luxe, cette aisance, cette profusion de choses offertes, cette évidence immédiate de la beauté ne les concernait plus. Ils se seraient damnés, jadis, pour les carreaux peints des salles de bain, pour les jets d'eau des jardins, pour la moquette écossaise du grand vestibule, pour les panneaux de chêne de la bibliothèque, pour les faïences, pour les vases, pour les tapis. Ils les saluèrent comme un souvenir. Ils n'y étaient pas devenus insensibles, mais ils ne les comprenaient plus. Ils manquaient de points de repère. C'est sans doute dans cette Tunisie-là, la Tunisie cosmopolite aux prestigieux vestiges, au climat agréable, à la vie pittoresque et colorée, qu'il leur aurait été le plus facile de s'installer. C'est sans doute cette vie-là qu'ils s'étaient jadis rêvés. Mais ils étaient devenus des sfaxiens, des provinciaux, des exilés.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les choses, Georges Perec, suite et fin. Monde sans souvenir, sans mémoire. Du temps passa encore, des jours et des semaines désertiques qui ne comptaient pas. Il ne se connaissait plus d'envie, monde indifférent. Des trains arrivaient, des navires accostaient au port, débarquaient des machines-outils, des médicaments, des roulements à bigues, chargeaient des phosphates de l'huile. Des camions chargés de paille traversaient la ville, gagnaient le sud où régnait la disette. Leur vie continuait, identique. Des heures de classe, des express à la Régence, des vieux films le soir, des journaux, des mots croisés. Ils étaient des somnambules. Ils ne savaient plus ce qu'ils voulaient, ils étaient dépossédés. Il leur semblait maintenant que jadis, et ce jadis chaque jour reculait davantage dans le temps, comme si leur histoire antérieure basculait dans la légende, dans l'irréel ou dans l'informe. Jadis, ils avaient eu au moins la frénésie d'avoir. Cette exigence souvent leur avait tenu lieu d'existence. Ils s'étaient sentis tendus en avant, impatients, dévorés de désirs. Et puis, qu'avaient-ils fait? Que s'était-il passé? Quelque chose qui ressemblait à une tragédie tranquille, très douce, s'installait au cœur de leur vie ralentie. Ils étaient perdus dans les décombres d'un très vieux rêve, dans des débris sans forme. Il ne restait rien. Ils étaient à bout de course au terme de cette trajectoire ambiguë qui avait été leur vie pendant 6 ans, au terme de cette quête indécise qui ne les avait menés nulle part, qui ne leur avait rien appris. Tout aurait pu continuer ainsi. Ils auraient pu rester là toute leur vie. Jérôme, à son tour, aurait pris un poste. Il n'aurait pas manqué d'argent. On aurait bien fini par les nommer à Tunis. Ils se seraient fait de nouveaux amis. Ils auraient acheté une voiture. Ils auraient eu à la Marsa, à Sidi Bou Saïd et à El Mansa une belle villa, un grand jardin. Mais il ne leur sera pas si facile d'échapper à leur histoire. Le temps, encore une fois, travaillera à leur place. L'année scolaire s'achèvera. La chaleur deviendra délicieuse. Jérôme passera ses journées à la plage et Sylvie, ses cours finis, viendra l'y rejoindre. Ce seront les dernières compositions, ils sentiront venir les vacances. Ils se languiront de Paris, du printemps, sur les berges de la Seine, de leurs arbres tout en fleurs, des Champs-Élysées, de la place des Vosges. Ils se souviendront émus de leur liberté si chérie, de leur grasse matinée, de leur repas aux chandelles. Et des amis leur enverront des projets de vacances. Une grande maison en Touraine, une bonne table, des parties de campagne. Et si nous revenions, dira l'un. Tout pourrait être comme avant, dira l'autre. Ils feront leur bagage. Ils rangeront les livres, les gravures, les photographies des copains, jetteront d'innombrables papiers, donneront autour d'eux leurs meubles, leurs planches mal équarries, leurs briques à 12 trous, expédieront leur mal. Ils compteront les jours, les heures, les minutes. Pour leurs dernières heures sphaxiennes, ils referont gravement leur promenade rituelle. Ils traverseront le marché central, longeront un instant le port, admireront comme chaque jour les énormes éponges séchant au soleil, passeront devant la charcuterie italienne, devant l'hôtel des Oliviers, devant la bibliothèque municipale, puis, retournant sur leurs pas par l'avenue Bourguiba, longeront la cathédrale hideuse, bifurqueront devant le collège où, la dernière fois, ils salueront, comme chaque jour, M. Michery, le surveillant général qui fera les 100 pas devant l'entrée, emprunteront la rue Victor Hugo, passeront une dernière fois devant leur restaurant familier, devant l'église grecque. Puis ils entreront en ville arabe, par la porte de la Kasbah, prendront la rue Bab Chedid, puis la rue du Bey, sortiront par la porte Bab Diwan, gagneront les arcades de l'avenue Eddy Shaker, longeront le théâtre, les deux cinémas, la banque, boiront un dernier café à la Régence, achèteront leur dernière cigarette, leurs derniers journaux. Deux minutes plus tard, ils prendront place dans une 403 de louage, prête à partir. Leurs valises, depuis longtemps, seront amarrées sur le toit. Ils serreront contre leur cœur leur argent, leurs billets de bateau et de chemin de fer, leurs tickets d'enregistrement, et la voiture démarrera lentement. À 5h30 du soir, au début de l'été, Sfax sera vraiment une très belle ville. Ses immeubles immaculés scintilleront sous le soleil. Les tours et les murailles crénelées de la ville arabe auront fière allure. Des scouts, tous de rouge et de blanc vêtus, passeront en marchant au pas cadencé. De grands drapeaux rouges à croissant blanc de Tunisie, verts et rouges d'Algérie flotteront au vent léger. Il y aura un bout de mer, toute bleue, de grands chantiers en construction, les interminables faubourgs encombrés d'ânes, d'enfants, de bicyclettes, puis les interminables champs d'oliviers, puis la route. Et la ville des mauvais larrons, Sousse et son front de mer surpeuplé, Anfidaville et ses immenses oliveraies, Bir Bou Rekba et ses cafés, ses fruits, ses poteries, puis un bout d'autoroute, des faubourgs industriels, des usines de savon, des cimenteries, Tunis. Ils se baigneront longuement à Carthage, au milieu des ruines, à la Marsa. Ils iront jusqu'à Outik, à Kélibia, à Nabeul, où ils achèteront des poteries, à la Goulette, où tard dans la nuit, ils mangeront d'extraordinaires dorades. Puis un matin à 6h, ils seront au port, les opérations d'embarquement seront longues et fastidieuses, ils trouveront avec peine une place ou sur le pont installer leurs chaises longues. La traversée sera sans histoire. À Marseille, ils boiront un café au lait accompagné de croissants. Ils achèteront Le Monde de la veille et Libération. Dans le train, le bruit des roues rythmera des chants de victoire. L'alléluia du Messie, des hymnes triomphaux, ils compteront les kilomètres. Ils s'extasieront devant la campagne française, ses grands champs de blé, ses vertes forêts, ses pacages et ses vallons. Ils arriveront à 11h du soir. Tous leurs amis les attendront. Ils s'extasieront sur leurs belles mines, ils seront bronzés comme de grands voyageurs et coiffés de grands chapeaux de paille tressée. Ils raconteront Sfax, le désert, les ruines magnifiques, la vie pas chère, la mer toute bleue. On les entraînera au Haris. Ils seront ivres tout de suite, ils seront heureux. Ils reviendront donc et ce sera pire. Ils reverront Paris. Et ce sera une véritable fête. Ils flâneront le long de la Seine, dans les jardins du Palais Royal, dans les petites rues de Saint-Germain. Et chaque nuit, dans les rues illuminées de chaque devanture à nouveau, ce sera une merveilleuse invite. Des étals crouleront sous les victuailles. Ils se presseront dans les cohues des grands magasins. Ils plongeront leurs mains dans les amas de soieries, caresseront les lourds flacons de parfums et fleureront les cravates. Ils tenteront de vivre comme avant, mais les charmes seront rompus. À nouveau, ils étoufferont. Ils croiront crever de petitesse, d'exiguïté. Alors un jour, n'avaient-ils pas toujours su que ce jour viendrait ? Ils décideront d'en finir une fois pour toutes comme les autres. Leurs amis alertés leur chercheront du travail, on les recommandera auprès de plusieurs agences. Ils écriront plein d'espoir des curriculum vitae soigneusement pesés, la chance. Mais ce ne sera pas exactement de la chance, sera pour eux. Leur état de service recevront, en dépit de leur irrégularité, une attention particulière. On les convoquera. Ils sauront trouver les mots qu'il faudra pour plaire. Et c'est ainsi qu'après quelques années de vie vagabonde, fatigué de manquer d'argent, fatigué de compter et de s'en vouloir de compter, Jérôme et Sylvie accepteront, peut-être avec gratitude, le double poste responsable assorti d'une rémunération qui pourra à la rigueur passer pour un pont d'or que leur offrira un mania de la publicité. Ils iront à Bordeaux prendre la direction d'une agence. Ils prépareront soigneusement leur départ. Ils arrangeront leur appartement, le feront repeindre, le débarrasseront des amas de livres, des ballots de linge, des masses de vaisselle qui l'avaient toujours encombré, sous lequel, bien souvent, ils avaient pensé étouffer. Et ils erreront presque sans s'y reconnaître dans ce deux pièces dont ils avaient dit si souvent que tout y était impossible et d'abord d'y errer. Ils le verront pour la première fois, tel qu'ils auraient voulu le voir toujours, enfin repeint, étincelant de blancheur, de propreté, sans un seul grain de poussière, sans tache, sans lézarde, sans déchirure, avec son plafond bas, sa cour campagnard, son arbre admirable, devant lequel bientôt, comme jadis eux-mêmes, de futurs acquéreurs viendront s'extasier. Ils vendront leurs livres aux bouquinistes, leurs frusques aux fripiers. Ils courront les tailleurs, les couturières, les chemisiers. Ils feront leur mal. Ils n'auront pas 30 ans. Ils auront leur vie devant eux. Ils quitteront Paris un début de mois de septembre. Ils seront presque seuls dans un wagon de première. Presque tout de suite, le train reprendra de la vitesse. Le wagon d'aluminium se balancera moelleusement. Ils partiront. Ils abandonneront tout. Ils fuiront. Rien d'autre n'aura su les retenir. « Te souviens-tu ?» dira Jérôme. Et ils évoqueront le temps passé, les jours sombres, leur jeunesse, leurs premières rencontres, les premières enquêtes, l'arbre dans la cour de la rue de Quatre Fages, les amis disparus, les repas fraternels. Ils se reverront traversant Paris à la recherche de cigarettes et s'arrêtant devant les antiquaires. Ils ressusciteront les vieux jours sphaxiens, leur lente mort, leur retour presque triomphal. « Et maintenant, voilà, » dira Sylvie. Et cela leur semblera presque naturel. Voilà, nous avons terminé donc ce soir la lecture de ce court roman de Georges Perec, Les Choses. Et nous nous retrouvons demain pour une dernière lecture de cette saison. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.